de Robert De Niro. Et après la politique, place au spectacle. Ce soir, le festival invite Tom Cruise pour le 8e volet de la Mission Impossible, pourtant hors compétition.
Merci beaucoup Cécile Mérieux, on vous retrouve à 8h pour le prochain Rappel des titres. Et Louis Dauphren, vous recevez ce matin Emmanuelle Hénin, professeure de littérature comparée à la Sorbonne. Elle a co-dirigé l'ouvrage « Face à l'obscurantisme woke », c'est aux presses universitaires de France.
Longtemps, l'Église catholique associée au monde médiéval s'est vue accusée d'être obscurantiste, c'est-à-dire hostile à la raison. L'honnêteté et un minimum de connaissances historiques obligent à dire que cette accusation était erronée. L'obscurantisme de nos jours concerne des phénomènes propres à une société post-chrétienne qui fait surgir de nouvelles formes de paganisme dont la particularité est de reprendre des aspects du christianisme. C'est le cas de la religion woke, née sur les décombres d'un protestantisme très sécularisé aux États-Unis. Ce nouvel obscurantisme entre en concurrence symbolique très forte avec la proposition chrétienne. Le dialogue interreligieux est pourvu d'angle mort aujourd'hui. Il ne reconnaît que des institutions à caractère clérical. Mais ce qui compte en fait, ce n'est pas le clergé. C'est ce que les gens croient, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont prêts à se sacrifier. Le wokisme sert de mot-valise à une certaine droite qui se cherche des épouvantails. Cela interdit de comprendre. Ce n'est pas notre objet ce matin. Il y a un enjeu pour le pape Léon XIV, un enjeu symbolique, en particulier aux États-Unis où le wokisme est très répandu et d'où il vient, et qui se répand aussi en France et qui nécessite donc un exercice, une sorte d'explication de texte qu'a entreprise Emmanuel Hénin, Xavier Laurent Salvador et Pierre Vermeuren, qui ont dirigé cet ouvrage collectif qui fonctionne très bien aux presses universitaires de France. Bonjour Emmanuel Hénin.
Bonjour.
Professeur de littérature comparée à la Sorbonne. À quel objet ça répond? Parce qu'il y en a quand même pas mal des livres sur le wokisme. Hein.
Oui, alors nous sommes très étonnés du succès de ce livre et très contents en même temps. Alors vous avez dit qu'il était en rupture de stock. Non, depuis hier, il est à nouveau approvisionné, donc vous pouvez vous jeter dessus. C'est vrai qu'il a un succès extraordinaire. Il a été en tête des ventes sur Amazon pendant les 3 jours où il était disponible. Et toutes les librairies ont été dévalisées. Je pense que le succès de ce livre tient peut-être à son marketing, à la couverture, qui fait un peu livre noir du wokisme.
À son contenu aussi, quand même.
Au fait que nous sommes, que c'est un contenu aussi extrêmement sérieux. Nous sommes 26 universitaires. Et aussi à ce que c'est paru au PUF, les presses universitaires de France. Or,
Albin Michel aujourd'hui.
L'idée de nos... Voilà, racheté par Albin Michel, mais ça reste la collection, disons, la maison d'édition des universités françaises. Or, nos adversaires veulent nous exclure de l'université. Ils ne supportent pas de ne pas avoir l'exclusivité de la parole savante.
Mais eux disent la même chose de vous.
Oui, mais sauf que c'est faux, puisque regardez les collections des PUF. D'abord, nous n'avons jamais rien censuré, alors que parmi les auteurs du livre, il y en a au moins deux qui ne peuvent tenir aucune conférence.
Lesquelles?
Sans qu'elle soit... Eh bien, il s'agit de Florence Bergeau-Blaclair, qui parle de l'islamisme. Aucune conférence n'est possible, elle est sous surveillance policière.
Qui a fait un livre sur le frérisme,
voilà, sur le frérisme
reconnu par tous.
Et ses réseaux,
hein.
Voilà, reconnu par tous les connaisseurs comme de très bonne qualité, très informés, etc. Impossible. Et puis, Céline Masson, qui avec Caroline Eliachef, lutte contre la propagande transgenre. Les locaux où elle parle sont saccagés, les conférences déprogrammées, notamment par la mairie de Paris, qui est woke. Hein. Je vous rappelle que David Béliard s'est félicité que Paris soit woke. Donc là, au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Hein. Paris assume son wokisme. C'est complètement faux de faire une symétrie. Alors, en revanche, aux États-Unis, la situation est différente. Parce que on a des annulations venant de la part de l'extrême droite, des anti-woke. Et puis, Donald Trump procède, en fait, à une forme de censure. Et nous n'appelons absolument pas à une forme de censure. Notamment, il procède par mots-clés. Le wokisme procède par mots-clés. C'est-à-dire que pour avoir des financements, il faut mettre dans ses projets de recherche intersectionnalité, racisme, diversité, que sais-je, un certain nombre de
systémique,
de
il y a tout un lexique. Hein.
Une sorte de lexique, voilà, assignation de genre, etc. Fluidité.
Hétéronormativité,
voilà. Donc il y a,
ouais, y en a pas mal. Hein,
un lexique, oui, il y a un certain nombre de mots. Mais enfin, quand même, il y en a une vingtaine ou une trentaine. Donc ça, on en fait assez vite le tour. Or, on ne compte pas les
Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus dans le christianisme, Emmanuel Hénin.
Quand même.
Si, quand même. Enfin, la Trinité,
ah bah oui, bien sûr,
la confession,
mais
tout ça, ce sont
le
des
christianisme
mots, ça tient une trentaine de mots, hein, peut-être.
Se fonde sur le réel. Il y a aussi le mot homme, femme, nature, animaux, que sais-je, tous les mots du réel. Le réel est inclus dans le christianisme, tandis que là, on a affaire à une pseudo-religion qui refuse le réel.
Le premier élément, vous dites, le fait que ce soit publié au PUF, vous estimez que c'est une reconnaissance universitaire de l'institution,
voilà,
qui donc vous
ça,
admet
voilà,
en son sein.
Exactement.
Ça, c'est le premier point.
Bon, enfin, en tout cas, l'éditeur institutionnel.
Le fait que j'ai commencé en ouvrant la fenêtre religieuse et en partant d'un protestantisme américain sécularisé, puisque André Perrin, en l'espèce, qui est philosophe, et, qui était venu sur cette antenne d'ailleurs sur un autre sujet, dit que les choses en fait sont venues d'une forme de religieux dégradé du protestantisme, en disant que la plupart des Américains étaient protestants attachés à une église, et qu'en fait aujourd'hui il n'y en a plus que 4% qui réellement pratiquent, et donc cette forme de dégénérescence de la pratique a abouti à créer une forme d'autre religion qui reprend les termes du christianisme. Est-ce qu'on peut explorer un peu ce point?
Ah oui, tout à fait. Alors, d'une part, les Américains comme Joseph Bottom ou John McWhorter ont étudié la filiation entre le mot woke et puis les Great Awakenings du 19e siècle, c'est-à-dire les grands réveils protestants, les grands moments de conversion collective. Alors, quels sont les points communs? C'est le péché, sauf que le péché n'est pas individuel, le mal ne passe pas en chacun, mais il est dans le système. Donc, à savoir l'hétéronormativité, le mal blanc, en gros, et l'Occident. Donc, on a tout ce qui va être... le monde est partagé en deux, les dominants et les dominés. Donc, première forme, finalement, d'hérésie, ce serait le manichéisme. Ça renoue avec cette hérésie manichéenne, où il y a les forces du bien, les forces du mal, et rien entre deux, aucune nuance possible. Bon. Deuxième chose, les rites. On a besoin de rituels. L'agenouillement, c'est très frappant. Vous avez vu au moment de Black Lives Matter, comme on s'agenouillait en mémoire de George Floyd. Et donc, on bat sa coulpe. Et il y a des sortes de confessions publiques aussi. Hein. Je reconnais que je suis raciste. Il y a des femmes aux États-Unis qui payent, ou des hommes, mais qui payent des milliers de dollars pour se voir rééduquer pendant une soirée et se faire dire que vous êtes raciste, vous êtes horriblement sexiste.
Ça, etc. C'est les États-Unis.
Ouais, c'est vraiment la beauté de ce monde. Et puis, c'est une religion aussi. Donc, il y a un péché, mais il est collectif, il est systémique. En revanche, il n'y a pas de pardon et pas de rédemption. C'est ça aussi la grande différence. C'est-à-dire qu'éternellement, il y a les victimes et les coupables. Et que, alors je vais vous citer une phrase qui est donnée par André Perrin, « La rédemption des péchés du monde ne se réalise plus à travers le sacrifice christique, mais par celui du bouc émissaire, à savoir la figure de l'homme blanc hétérosexuel, symbole qui réunit les trois fautes à la racine des injustices sexuelles, raciales et de genre. » Masculinité, blanchité, hétéronormativité.
Autrement dit... On pense tout de suite à René voilà Girard et le bouc émissaire.
Oui, c'est ça, voilà. Le bouc émissaire. Et puis, si on pense à une autre différence, c'est... Ah oui, alors, pardon, une autre hérésie d'abord. Le gnosticisme, la gnose. À savoir, dans les premiers siècles, certains chrétiens disaient que le corps, c'était le mal. Ou que le corps n'existait pas. C'était la matière. Hein, c'est une idée qu'on trouve chez Plotin, notamment. Bon, et puis plus tard. Et là, on trouve aussi l'idée que le corps ne compte pas. Qu'on peut... alors, en même temps, c'est bizarre, puisque moi, je peux dire que je suis un homme avec un corps de femme. Hein. Récemment, par exemple, il faut savoir qu'un gynécologue a été suspendu 2 mois par l'ordre des médecins parce qu'il a refusé d'examiner un homme qui se disait femme. Voilà. Donc, ça va quand même assez loin. C'est-à-dire, ça prouve que les institutions admettent cette réalité parallèle. Hein. On fait leur cette réalité parallèle.
Bon. Donc, manichéisme, gnosticisme... On fait du neuf avec du vieux,
voilà,
en fait, aujourd'hui.
Voilà, on fait du neuf avec du vieux. Et puis, quand on dit que... au moins, il y a une chose qui est complètement contraire à l'anthropologie chrétienne, c'est justement cette histoire que le corps n'existe pas et que hommes et femmes n'existent pas non plus, cette histoire de fluidité des genres. Alors, je vous défie de réécrire la Genèse en mode fluidité des genres, hein, en mode non-binaire. Hein, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Voilà. Yel et Yel, il les créa. Bon, quelque chose comme ça. Bon.
Voilà. Emmanuel Hénin, juste un point pour qu'on comprenne. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça serve d'épouvantail, le wokisme, une sorte de mot-valise. En fait, quel est le périmètre d'étude? C'est-à-dire que l'intersectionnalité, elle est censée réunir toutes les formes de lutte et de domination et de créer un lien entre ces formes de lutte et de domination. Donc ça veut dire que ça concerne en fait tous les aspects de la vie.
Alors,
ou est-ce que ça porte sur certains points?
Alors il y a une tentation totalitaire, c'est-à-dire il y a une grande tentation de cette idéologie, comme toutes les idéologies totalitaires, de rendre compte de la totalité du réel. C'est-à-dire qu'on va plaquer cette grille sur tout. Alors je prends l'exemple, puisque moi je suis en littérature... Sur tous les objets littéraires, par exemple, on va chercher dans le Cantique des Cantiques, dans les chansons de gestes, on va chercher de la fluidité de genre, on va chercher du racisme chez Shakespeare. Donc en effet, cette grille, on va l'appliquer à tous les objets. Mais ça induit aussi un rétrécissement de focale, Par exemple, mon collègue Pierre Vermeeren souligne que maintenant, toutes les personnes qui travaillent sur le Moyen-Orient, etc., sur la colonisation, travaillent sur des micro-sujets. Par exemple, les accoucheuses au 19e siècle dans tel pays colonisé. Voilà. Et ils ne vont pas du tout voir les énormes problèmes que pose encore aujourd'hui l'esclavage qui existe encore, des choses qui sont plus importantes, les guerres, des choses qui... mais moins sexy, si j'ose dire. Et donc, il y a à la fois un rétrécissement du réel à ce qui les intéresse, et puis... comme si, finalement, le problème principal de la France, c'était le racisme, aujourd'hui.
Est-ce que tout cela, Emmanuel Hénin, n'est pas une question de, j'allais dire, de marketing et de positionnement pour obtenir des budgets de recherche, etc. Est-ce que, finalement, oui. le fin du fin, ce n'est pas une question d'argent ?
Bien sûr, beaucoup. C'est une question d'argent. Alors, d'abord dans la recherche, puisqu'il faut savoir que la France s'est complètement désengagée du financement de la recherche et l'a confiée à Bruxelles. À laquelle, quand même, nous donnons, les contribuables donnent 46 milliards par an, qui sont ensuite ventilés pour des projets de recherche. Or, entre 15 et 20% de ces projets sont exclusivement dédiés, enfin, de ces budgets sont exclusivement dédiés à des projets complètement woke, c'est-à-dire soutenant les études de race et de genre. Bon, sans compter, alors vous allez me dire, il en reste 80%, sauf que les 80% sont quand même aussi fortement contaminés par ces mots-clés. Et toutes les disciplines sont concernées, de la médecine à la biologie, etc.
Et vous, vous estimez que donc, il y a une concurrence, une sorte de concurrence déloyale par le fait que cela préempte des budgets. Ça, vous en souffrez ?
Alors,
ou vos disciplines en souffrent, ou les disciplines représentées par les contributeurs ?
Bien sûr, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question proprement disciplinaire, puisque... il y a une redistribution du savoir, non plus en disciplines, les disciplines classiques, que sais-je, l'histoire, les langues, la linguistique, la littérature, etc., les sciences sociales, mais en termes de studies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les études critiques. Assez mal nommées, puisque c'est l'inverse de l'esprit critique, ce sont des études dogmatiques en réalité, mais ces études critiques, en fait, défont complètement le tissu habituel des disciplines, et donc entrent en concurrence avec, par exemple, vous allez avoir un département d'études de genre, et comme il n'y a pas une place infinie ni des budgets infinis à l'université, surtout en France où elle est très appauvrie quand même, eh bien, nécessairement, on va supprimer des postes en littérature, en ne parlons même pas des lettres classiques
qui
pour les réaffecter à ces études de genre qui n'ont pas vraiment de méthodologie, qui font un gloubi-boulga. En réalité, ce sont des études militantes.
Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre, vous avez soutenu pour votre colloque qui avait suscité quelques mobilisations militantes. Où en est-on aujourd'hui du point de vue de la position des pouvoirs publics ?
Eh bien, pas grand-chose. On entend.
Ça a évolué quand même ?
Non, pas franchement, disons. Puisque on est encore dans ce cadre. Si vous voulez, c'est le cadre institutionnel. On ne parle plus de sexe, mais de genre, par exemple. Et tout ça est tellement cadré. C'est dans la loi, c'est à l'ONU, c'est à l'Union européenne. Donc, c'est difficile d'en sortir. En fait, on est dans un. Il faudrait vraiment renverser la vapeur, mais pas de la manière dont Donald Trump procède, qui est une manière tellement grossière et elle-même un peu totalitaire que forcément c'est un autre épouvantail. Donc ce que je voudrais simplement dire, c'est que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. C'est pas parce que Trump combat le wokisme qu'on est trumpiste, parce que c'est évidemment le procès qu'on nous fait. Et nos adversaires n'ont pas lu le livre, aucun, hein, même ceux qui prétendent l'avoir fait, puisqu'ils nous font simplement des procès d'intention et retombent toujours sur l'idée... l'idée d'un complot, l'idée de, comment dire, d'un complot d'extrême droite, voilà, qu'on veut en fait la victoire d'un Trump français.
Le paradoxe, je disais, c'est que les personnes que vous visez s'estiment elles-mêmes victimes, en fait, de la prédominance que vous donnent les médias ou de l'écho que les médias vous donnent et du succès aussi que vous avez. Comment voyez-vous cet aspect-là des choses ? On a l'impression qu'il y a une concurrence victimaire aussi.
Oui, alors c'est faux parce que d'abord, nous présentons pas comme des victimes. Nous présentons comme des lanceurs d'alerte par rapport à l'effondrement intellectuel du monde occidental dont parle Marcel Gauchet, et en particulier l'effondrement des savoirs à l'université, la disparition de pans entiers du savoir. D'accord ? On fait pas ça pour se mettre spécialement en valeur, parce que ça nous vaut beaucoup plus de coups qu'autre chose. Simplement, voilà, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et par ailleurs, c'est complètement faux, ce parallèle, dans la mesure où aucun de tous ceux qui professent des études décoloniales, des études de genre, n'a été censuré en France. Alors que, comme je vous disais, un certain nombre de collègues, et encore, je n'ai pas cité aussi Leonardo Orlando, dont le cours sur le darwinisme a été annulé, voilà, ils sont systématiquement censurés. Donc ce parallèle est complètement faux. En outre, pour ce qui concerne les médias, on a certes quelques médias dissidents, que d'ailleurs le pouvoir essaye de fermer les uns après les autres. On a déjà une chaîne qui a disparu quand même. Mais tout le service public nous fait un procès complètement à charge. Et s'il nous invite sur quelques plateaux, c'est uniquement pour nous démolir.
Emmanuel Hénin, aujourd'hui, si vous lancez une alerte, c'est qu'on suppose que vous avez envie d'être écouté. Donc, certes. À qui ça s'adresse ?
Alors, ça s'adresse à toute personne de bonne volonté. Évidemment, avant tout aux dirigeants politiques, ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Ce qu'on voudrait simplement, c'est que les pouvoirs politiques jettent un œil sur ce qui se passe à l'université et arrêtent de s'en laver les mains. Avec la loi sur l'autonomie des universités, déjà, ils se sont complètement désengagés financièrement, ce qui fait que la plupart des autonomies des universités sont en semi-faillite. Ensuite, avec cette histoire de Bruxelles, ils se sont aussi désengagés sur leurs orientations. Donc on voudrait juste qu'ils reprennent en main cela, qu'ils nous disent s'ils veulent une université qui fonctionne par studies, et dans ces cas-là, très bien, on ira créer des universités privées, comme aux États-Unis, où on apprendra encore les sciences classiques comme autrefois, ou alors si on revient à, ou on maintient une division disciplinaire des choses.
Vous êtes prête à franchir le pas, vous, de l'université privée ?
Ah bah, le jour où ce sera nécessaire, le jour où je serai inaudible, oui. Mais alors, je voudrais quand même dire que les étudiants sont quand même intelligent et que quand on leur explique les choses, j'ai jamais eu d'opposition. J'ai jamais eu de... Voilà, et mes collègues, de mon avis, disent la même chose.
Emmanuel Hénin, est-ce que vous êtes libre dans vos cours aujourd'hui, de littérature comparée ?
Oui, complètement.
Bon, dans personne ne vient vous chercher.
Non, du moment que je reste à l'intérieur de mes cours et que...
Non, mais on ne vous oblige pas à réécrire vos cours pour tenir compte du...
Ah bah non, alors on n'est pas complètement encore dans le stalinisme. Il y a, y a pas mal de ressemblances, mais on n'en est pas là.
Non, est-ce qu'on est venu écouter vos cours, par exemple, pour...
Non, mais ça, ce serait vraiment... Non, parce qu'à ce moment-là, ce serait vraiment avouer leur censure. Non, mais en revanche, un colloque, oui, ils sont venus l'écouter, ils sont venus le censurer, l'interdire, etc.
Merci beaucoup d'être venu nous expliquer un petit peu ce qu'était le wokisme, mot valise qui mérite d'être mieux compris, mieux ausculté, ce que vous avez fait dans Face à l'obscurantisme woke paru au PUF avec Xavier Laurent Salvador, Pierre Vermeuren, des universitaires, puisque c'est important de le rappeler, c'est une production universitaire.
Merci beaucoup, Emmanuel Hénin. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Louis Defresne, on vous retrouve à 9h10 pour le débat du jour, Louis.